Gaston Bachelard, Radio. Aujourd'hui, les images premières.
Les hommes imaginent plus qu'ils ne pensent. Ils ont alors des expressions qui dépassent leur pensée, qui dépassent la pensée. Pour la matière qu'ils aiment, ils ont des louanges qui sont des chants de poètes.
Prenons une toute petite image que nous appellerons l'enfant au buvard. Le voici, tenant en main le coin du papier onctueux, feutré et filoché. Il l'approche sournoisement de la tache d'encre. Un physicien dira que l'écolier s'intéresse au phénomène de la capillarité. Un psychanalyste y suspectera un besoin de maculer. En fait, les rêves sont plus grands. Ils dépassent les raisons et les symboles. Les rêves sont immenses. Ils ont, par une fatalité de grandeur, une cosmicité. L'enfant au buvard assèche la mer rouge. Le buvard maculé est la carte d'un continent. C'est la terre même qui vient d'absorber la mer. Et sans fin, l'écolier, assis à son banc, mais parti cependant pour l'école buissonnière, pour les voyages de la géographie dynamique, pour cette géographie rêvée qui le console de la géographie récitée, l'écolier rêvant travaille à la limite de deux univers. L'univers de l'eau et l'univers de la terre. Le rêve fait ainsi des eaux fortes sur du papier mâché. Gaston Bachelard, la terre et les rêveries de la volonté.
Lorsque Gaston Bachelard lit les poètes, son intérêt ne porte pas sur la construction du poème, ni sur la structure du vers. Ce sont les métaphores, les images, qui l'animent et qui le passionnent, et plus particulièrement les images matérielles. Le projet de Bachelard est alors de regrouper les images autour des quatre éléments cosmiques, l'eau, la terre, l'air, le feu, qui apparaissent comme les archétypes de la rêverie, comme si ces éléments matériels étaient à la fois les éléments de l'univers et les éléments de l'imagination poétique. Sur ce thème, Gaston Bachelard a donné une causerie qui a été diffusée le 15 novembre 1952.
L'imagination poétique est donnée généralement comme une faculté joueuse, consciente de son irresponsabilité, courant au-dessus des choses, qui tend sans fin dans une virtuosité d'image. Une image pour une autre. On la donne comme un besoin insatiable d'expression, besoin qui doit toujours trouver de nouvelles formes et de nouvelles couleurs. Le poète se livre à la vie des formes et des couleurs. Il accélère le mouvement de tout ce qui vit et de tout ce qui resplendit. Si, dans un poème, les images s'immobilisaient, on les accuserait d'être des idées. Et cependant, il est des images insistantes, des images qui centralisent de vastes régions poétiques, des images qui ont des racines si profondes dans le psychisme humain qu'on doit chercher, qu'on peut chercher longtemps les raisons d'une telle profondeur.
Outre les images de la forme, si souvent évoquées par les psychologues de l'imagination, il y a des images de la matière, des images directes de la matière. La vue les nomme et la main les connaît. Une joie dynamique les manie, les pétrit, les allège. Ces images de la matière, on les rêve substantiellement, intimement, en écartant les formes périssables, les vaines images, le devenir des surfaces. Elles ont un poids, elles sont un cœur. Sans doute, il est des œuvres où les deux forces imaginantes coopèrent. Il est même impossible de les séparer complètement. La rêverie la plus mobile, la plus métamorphosante, la plus entièrement livrée aux formes, garde quand même un lest, une densité, une lenteur, une germination. En revanche, toute œuvre poétique qui descend assez profondément dans le germe de l'être, pour trouver la solide constance et belle monotonie de la matière, toute œuvre poétique qui prend ses forces dans l'action vigilante d'une cause substantielle, doit tout de même fleurir, se parer. Elle doit accueillir, pour la première séduction du lecteur, les exubérances de la beauté formelle. En raison de ce besoin de séduire, l'imagination travaille le plus généralement où va la joie, ou tout au moins où va une joie, dans le sens des formes et des couleurs, dans le sens des variétés et des métamorphoses, dans le sens d'un avenir de la surface. Elle déserte la profondeur, l'intimité substantielle, le volume. C'est cependant à l'imagination intime de ses forces végétantes et matérielles que nous voudrions surtout prêter notre attention. Seul, un philosophe iconoclaste peut entreprendre cette lourde besogne, détacher tous les suffixes de la beauté, s'évertuer à trouver derrière les images qui se montrent, les images qui se cachent, aller à la racine même de la force imaginante. Au fond de la matière pousse une végétation obscure. Dans la nuit de la matière fleurissent des fleurs noires. Elles ont déjà leur velours et la formule de leur parfum. Gaston Bachelard, L'eau et les rêves.
Ces images insistantes, profondes, universelles, elles appartiennent à la fois au cosmos et à la nature humaine. Examinées dans cette perspective des images privilégiées, l'imagination poétique se révèle d'une portée psychologique incalculable. Elle nous aide à revivre l'inscription du langage au centre même de l'être humain. Elle fait de la poésie une ontologie poétique. Elle est, elle seule, une méthode d'enquête de l'inconscient total. Elle nous ramène à l'origine des langues, à la jeunesse toujours active du langage. Le lyrisme est nécessairement un enthousiasme linguistique. La poésie, dans la gloire de ses métaphores nouvelles, est toujours, si partiellement que ce soit, une création de langage. Quand un grand poète a parlé, le langage a reçu une promotion définitive. On doit donc pouvoir, en examinant l'imagination poétique en acte, à la fois isoler ce que le psychanalyste Alain Lee appelait des symboles universels dans son beau livre Les rêves expliqués, et déterminer aussi l'action constante, la rénovation incessante des forces de symbolisation qui animent toute la poésie. Ces symboles universels, ces symboles conjoignant les images cosmiques et les songes les plus profondément enracinés dans la conscience humaine, s'éclairent dans une classification des images suivant les quatre éléments eau, feu, air et terre. Ce n'est pas pour rien que ces quatre éléments ont joué un si grand rôle dans les premières cosmogonies, dans les anciennes philosophies de l'univers, dans cet étrange complexe d'idées et de rêveries que fut l'alchimie. On pourrait croire que les progrès de la pensée, que les progrès de l'expérience scientifique ont rejeté au rang de simples illusions, de naïves métaphores, toute l'imagerie des quatre éléments. Il n'en est rien. Le feu, l'eau, la terre et l'air commandent des images dominantes, des images qui restent à la source de l'activité qui imagine le monde. pour bien participer au spectacle et aux forces du monde, il faut donc revenir sans cesse aux images premières qui ont de tout temps animé l'instinct poétique. Dans l'âme du poète se renouvelle, aux heures d'inspiration sincère, en dehors de toute l'intellectualité de la culture, les images fondamentales des quatre éléments.
Pour Bachelard, François Dagonier, qu'est-ce qu'une image ?
C'est d'abord pas l'image, c'est l'imagination. Parce qu'une image, c'est le produit de l'imagination, c'est une activité, donc c'est pas une chose. La force du bachelardiste dans ce domaine de l'imaginaire, c'est qu'il est venu avec des méthodes que les autres n'avaient pas avant lui. Et ce que les autres n'avaient pas, c'est précisément ce que l'alchimie lui a apporté. L'image littéraire, créatrice, innovatrice, instauratrice, elle accomplit le rêve de la nature. Et l'image elle ne tombe pas du ciel. Dans les choses, il y a des espèces de bizarreries et contradictions. Vous voulez que je prenne un exemple ? La chandelle, c'est un être un peu ambivalent. C'est gras, c'est huileux, c'est bien. Et en même temps, elle a un mouvement d'élévation qui donne au sommet, à la pointe de la chandelle, une lumière tout à fait pure. Alors vous avez un espèce de contraste entre le contenant, la graisse, la plus lourde, enfin si vous voulez, et la lumière la plus distillée, la plus pure. Bon. La chandelle est une première image, mais qui sera dépassée par la chandelle poétique. Parce que les poètes, ils vont pousser le feu de la réalité un peu plus loin que la nature ne la conduit. Et alors, ce sera une, je le répète, une nature pas tout à fait sublimée, mais poussée à un degré, sur une orbite encore plus, et encore extrême. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une image ? Dans le monde, il y a des rêveries alanguies et arrêtées. Le poète les reprend et il les pousse à leur sommet en y mêlant ses propres conflits. Alors, l'image, eh bien, c'est l'accomplissement des choses. Je crois que l'aspect matérialiste ne doit jamais être perdu de vue. Il n'y a pas d'image qui ne soit séparée d'une matérialité. Alors, ce sera la rivière, ce sera le coffre de l'armoire, ce sera l'androgynie, ce sera le feu de la chandelle ou de l'âtre, ce sera tout ce que vous voudrez, mais il faut toujours qu'il y ait, je répète, une espèce d'incitation. Le matérialisme imaginaire, et alors l'imagination, c'est une action, c'est un opérateur qui dépasse la matérialité tout en l'accomplissant.
Est-ce qu'on peut dire que la rêverie relève non pas d'une psychologie, mais plutôt d'une ontologie ?
Oui.
Au lieu d'une dynamologie.
D'une dynamologie, assurément. Évidemment, Bachelard s'est séparé, à juste titre, selon moi, des principales psychologies de la rêverie. Puisque le rêve est inséparable d'une certaine matérialisation et d'une certaine vie des choses, il est plus proche à cet égard des philosophies de la nature que du courant psychologique français qui s'est intéressé aux images. D'ailleurs, il est très sévère pour les psychologues des images, d'une imagination, du réel, alors que lui dit, moi, c'est plutôt l'irréel. L'imaginaire, pour lui, je le répète, ne relève pas du psychisme, mais relève plutôt du monde.
Avec la joie d'un botaniste, en lisant sans fin les poètes, je recueille les images de la matière, et malgré leur infinie variation, leur nécessaire variation, je classe aisément toutes ces images selon qu'elles font revivre les archétypes de l'eau, de l'air, du feu ou de la terre. Il me semble utile de mettre en lumière un véritable réalisme de l'imagination, un réalisme qui veut dépasser les apparences, qui veut posséder le monde dans ses substances et le suivre dans ses forces intimes. Autrement dit, il faut nous rendre compte que nous imaginons directement la matière, par-delà les formes et les couleurs. En particulier, aussi bien que nos yeux, nos mains imaginent les forces latentes imaginaires donnent des résistances. Elles imaginent des résistances. Notre imagination dynamique, sur un mode épique, provoque l'univers. Et les tempéraments de l'homme se révèlent clairement dans ses préférences et dans ses antipathies pour des matières particulières. Les hommes imaginent plus qu'ils ne pensent. Ils ont alors des expressions qui dépassent leur pensée, qui dépassent la pensée. Pour la matière qu'ils aiment, ils ont des louanges qui sont des chants de poètes.
L'imagination n'est pas, comme le suggère l'étymologie, la faculté de former des images de la réalité. Elle est la faculté de former des images qui dépassent la réalité, qui chantent la réalité. Elle est une faculté de surhumanité. Un homme est un homme dans la proportion où il est un surhomme. On doit définir un homme par l'ensemble des tendances qui le poussent à dépasser l'humaine condition. Une psychologie de l'esprit en action est automatiquement la psychologie d'un esprit exceptionnel, la psychologie d'un esprit que tente l'exception, l'image nouvelle greffée sur une image ancienne. L'imagination invente plus que des choses et des drames, elle invente de la vie nouvelle, elle invente de l'esprit nouveau. Elle ouvre des yeux qui ont des types nouveaux de vision. Elle verra si elle a des visions. Elle aura des visions si elle s'éduque avec des rêveries avant de s'éduquer avec des expériences. Si les expériences viennent ensuite comme des preuves de ses rêveries. Comme le dit D'Annunzio, les événements les plus riches arrive en nous bien avant que l'âme s'en aperçoive. Et quand nous commençons à ouvrir les yeux sur le visible, déjà nous étions depuis longtemps adhérents à l'invisible. Cette adhésion à l'invisible, voilà la poésie première, voilà la poésie qui nous permet de prendre goût à notre destin intime. Elle nous donne une impression de jeunesse ou de jouvence en nous rendant sans cesse la faculté de nous émerveiller. La vraie poésie est une fonction d'éveil. Gaston Bachelard, L'eau et les rêves.
Il s'en sert en guise de crayon. Il admire le ton chaud du trait. C'est bien là, pense-t-il, la matière qui lui servirait pour rendre les champs labourés, le jardin qui vient en mars d'être bêché. Ne serait-ce pas un grand idéal que de peindre la terre avec un morceau de terre? Mais le peintre, dans sa joie d'avoir découvert la bonne matière, va-t-il se borner à des louanges de techniciens? Non. Le voici tout de suite poète. Lisez cette lettre à son frère Théo. Je cite cette lettre. Il y a dans la pleine montagne une âme et une vie. Dans le crayon compté, je trouve quelque chose de mort. La pleine montagne, je dirais qu'elle comprend presque ce que l'on veut. Elle écoute avec intelligence et obéit. Et le crayon compté est indifférent et ne collabore pas. Et il ajoute plus loin, la craie de montagne a une véritable âme de zigane. Sans doute, peu d'entre nous connaissent la craie de montagne. Mais cependant, en nous, quelque chose participe à la joie du peintre, à l'enthousiasme du peintre. Pour le moins, cette page de Van Gogh nous rend clair témoignage de l'extraordinaire ardeur de peindre qui marque le génie de Van Gogh. Alivée par la sympathie, notre imagination est prête à recevoir cette image matérielle excessive. Nous prenons le parti du peintre et nous souririons du censeur, du professeur de rhétorique qui voudrait nous ramener à des expressions plus mesurées. Nous voulions seulement, avec l'exemple de Van Gogh, donner une preuve du caractère direct de l'imagerie matérielle, de l'enthousiasme pour une matière privilégiée par l'imagination. Nous voudrions maintenant insister sur une véritable dialectique qui anime l'imagination de chaque élément. En gros, les éléments sont à la fois des substances et des forces. Les éléments sont tour à tour des biens intimes, des richesses condensées, jalousement possédées par le rêveur. Et, dans une deuxième orientation, les éléments sont des agents projetés sur les choses, des agents qui donnent la vie et le mouvement à tout un univers.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour ces images, il a trouvé des règles de fonctionnement qui montre bien que l'imagination obéit à une dialectique interne. Par conséquent, c'est quelque chose, effectivement, qui n'est pas purement psychologique, c'est quelque chose de plus profond, pour lequel il a découvert les procédures de fonctionnement. Par exemple, ce qui contient, par exemple, le minuscule, ce qui est focalisé, le rond, a beaucoup de force et de pouvoir, parce que c'est comme un microcosme. La maison qui est un tout renfermé sur elle, l'armoire et ses coffres, le rond, la coupole, bénéficie d'un statut justement ontologique privilégié, eu égard au fait que ces images, sont totalisatrices. Et le cercle, la rondeur, bénéficie effectivement d'un avantage. Pourquoi ? Parce que il semble que tout soit compris là. Ce qui comprend les choses semble, je le répète, un objet parfait dans lequel on peut se recueillir, où on peut enfermer le trésor. C'est un trésor, par exemple. Alors ça, c'est bien une espèce d'archétype de l'imaginaire, cette préférence pour les objets qui sont enfermés dans les autres objets, pour les objets totalisés qui sont parfaitement ronds. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et Jung avait défini des archétypes, c'est-à-dire des images fondamentales. Je ne crois pas que Bachelard soit tout à fait dans le sillage de Jung, encore qu'il l'ait beaucoup lu.
Il l'affirme, oui. Il l'affirme souvent.
Mais tout ce qu'il affirme, nous l'avons vu, il n'est pas à prendre comptant. Puis alors Jung, évidemment, c'est l'alchimie aussi. Son livre Alchimie, Psychologie et Alchimie, ou Alchimie et Psychologie, je perds le titre exact, montre bien la communauté des trajectoires entre Jung et Bachelard. Seulement, Jung a trouvé dedans, pour de nombreuses raisons, Bachelard s'en sépare. parce que Jung revient justement à la scolastique freudienne. Bien. D'autre part, il n'y a pas d'archétype, parce que Jung, moi, à mon avis, du moins à travers mes lectures anciennes, il a essayé de montrer qu'il y avait des statuts imaginaires privilégiés qu'il a d'ailleurs parfaitement décrits et classés. Mais ça n'a aucun intérêt pour moi. Moi, ce que je veux comprendre, c'est la raison d'être de ces structures privilégiées. Alors, la force du bachelardisme, c'est de devoir expliquer pourquoi nous communions tous dans les grandes images. Il y a une vie des images. Il m'a fait comprendre cette vie des images sans passer par une théorie unitaire, comme Jung. Puis alors, surtout, il y a le fourmillement des images chez lui, qu'il n'y a pas chez Jung. Il a réussi à lire beaucoup de poètes, Bachelard, qui vont dans tous les sens. Il m'a fait comprendre, je répète, les raisons d'être de ce frémissement généralisé. Chaque poète renouvelle l'image. Vous savez que la grande loi du bachelardisme, il ne faut pas expliquer le présent par le passé, mais voir l'avenir qui se profile dans le présent. Ceci va à l'encontre des hypothèses jungiennes qui toujours renvoient à la régression, alors que lui, au contraire, l'image, elle est préfiguratrice et anticipatrice. Donc il n'est pas jungien. Et Jung est fatigant, il est monocorde, alors que Bachelard, au contraire, il est sensible aux nuances, et puis c'est la variété, c'est la fête, la fête.
Chacun à leur manière, l'énorme corps de la terre. Chacun des trois éléments de la mobilité spécifie une sorte de physiologie du cosmos. Mais précisément, des mondes aussi fortement unifiés dans les substances de l'eau, du feu ou d'une substance éthérine, des mondes aussi fortement taxés par les forces du fleuve, de la flamme ou de l'ouragan, appellent chacun un héros. Le héros, c'est le poète. Le poète prend tout naturellement l'empire sur son univers. La poésie cosmique se situe toujours à l'origine d'un univers. Il faudra donc toujours classer les images des poètes, non pas seulement dans la lumière de l'histoire de l'expression poétique, mais encore et surtout dans une véritable préhistoire de la poésie, quand le poète donne sa voix et son âme à l'expression des forces cosmiques et élémentaires.
C'était Les images premières. Gaston Bachelard, Causerie 1952. Document INA recueilli par Suzanne Legrand. Une émission composée par Michel Cohen, Janine Antoine. Avec la participation de François Dagonier. Texte lu par Claude Royer-Journoux. Collaboration technique, Marcel Grenier. À rêveur de mots, Gaston Bachelard.
Histoire et formation de l'esprit scientifique. Deuxième partie. Archives, 1947-1962. Les grands savants du 19e siècle, suite de figures cette semaine. L'essor scientifique aujourd'hui, le 19e siècle, en Angleterre et en Allemagne. Gaston Bachelard, 1949.
Si durement éprouvée que fut la science anglaise par la disparition prématurée de Maxwell, elle ne fut peut-être jamais si brillante que dans les dernières années du 19e siècle. Un grand savant, qui avait 55 ans à la mort de Maxwell, Lord Kelvin, jouissait d'une réputation mondiale. Toute sa vie, il donna son attention aux appareils de mesure des phénomènes électriques. L'électromètre de Lord Kelvin est encore en usage dans nos laboratoires. Lord Kelvin avait la mystique de la mesure exacte, le génie de l'appareil sensible et simple. Lord Kelvin continue aussi une tradition de la science anglaise, le désir constant de rendre la science accessible au peuple. Faraday avait fait des conférences populaires. Le grand savant John Tyndall, mort en 1893, fit toute sa vie des exposés sur la physique classique et écrivit des livres qui restent des modèles d'exposition claire. Lord Kelvin montra lui aussi le même génie de propagande pour la culture scientifique. Il mourut chargé d'honneur et d'honneur en 1907 et fut inhumé à Westminster à côté de Newton et de Faraday. Un contemporain de Lord Kelvin, William Crookes, déjà célèbre par sa découverte du thallium et par l'invention du radiomètre en 1873, approfondit les phénomènes de la décharge électrique dans le vide. En poussant plus loin le vide réalisé par Plücker, il découvrit le phénomène des rayons cathodiques. Bientôt, les tubes de Crookes furent répandus dans tous les laboratoires du monde. Crookes n'avait pas hésité à désigner les phénomènes qui se produisaient dans ces tubes sous le nom d'un quatrième état de la matière, l'état radiant. Crookes, qui était à la fois un esprit d'une extrême ingéniosité et une âme pleine de songes, trouvait dans les phénomènes de l'état radiant les occasions d'un commentaire pour des croyances spirites. En fait, les rayons cathodiques posaient une grande énigme. On se demandait s'ils étaient de nature ondulatoire ou de nature corpusculaire. Et ce n'est qu'à la fin du 19e siècle et au commencement du 20e qu'on put réunir assez de preuves pour affirmer la nature corpusculaire des rayons cathodiques. Les travaux du français Jean Perrin furent décisifs à cet égard. Mais on comprendra tout de suite l'importance des recherches de Crookes si nous rappelons que le phénomène des rayons cathodiques est à l'origine même de la production des rayons X. Le grand physicien allemand Röntgen découvrit que l'anticathode du tube de Crookes produisait cette mystérieuse radiation qu'on désigna sous le nom de rayons X. La découverte de Röntgen eut lieu en 1895. Crookes, dont la longue vie se termina en 1919, put donc mesurer tous les bienfaits que ses recherches avaient apportés à l'humanité. En rapport encore avec les rayons cathodiques, il faut mettre la découverte de l'électron. Le mot est devenu familier. Le mot est pourtant assez récent. Il a été proposé par le savant irlandais Stoney en 1891. Un grand savant anglais doit aussi être mentionné comme promoteur de la notion d'électron. Joseph John Thomson, qui vécut de 1856 à 1940. Pour les savants de la fin du siècle dernier, qu'est-ce donc que l'électron ? Ce n'est autre chose que le corpuscule qui spécifie les rayons cathodiques. Autrement dit, les rayons cathodiques sont des flux extrêmement nombreux d'électrons. Mais dans cette courte revue des grands savants anglais, nous n'avons pu suivre qu'une ligne de découverte. En fait, une jeune école se préparait dans les dernières décades du XIXe siècle qui devait apporter cette école son action décisive dans les révolutions scientifiques. Le rôle d'Ernest Rutherford, né en Nouvelle-Zélande en 1871, devait donner à ce grand savant un renom mondial dès les premières années du XXe siècle. Avec son ami Frédéric Saddy, il devait, dès 1902, identifier le corpuscule alpha, produit de la désintégration du radium et du noyau d'hélium. Mais nous touchons à une science complexe qui serait mal analysée par sa simple histoire. D'ailleurs, pour être moins incomplet, il faut, à côté de la science physique qui réclame une coopération de plus en plus grande, évoquer des cultures plus solitaires. On trouverait, en méditant la vie de solitude d'un mathématicien comme Kelly, un grand exemple de désintéressement et d'attachement à la science. Kelly dut d'abord gagner sa vie comme avocat, et toute son œuvre, d'une prodigieuse profondeur, est constituée par une série de mémoires séparées, souvent très courtes. Kelly mourut en 1895. Par une rencontre étrange, son ami Sylvester dut lui aussi longtemps gagner sa vie comme avocat. Voilà donc deux avocats qui furent de très grands mathématiciens. Ces faits si rares méritaient bien, croyons-nous, d'être signalés.
Gaston Bachelard, 1949.
Nous allons consacrer deux causeries successives à l'essor de la science allemande à la fin du XIXe siècle. Bien que dans la science moderne, il soit un peu artificiel de séparer les recherches théoriques et l'activité expérimentale, nous diviserons notre examen en deux conférences complémentaires. L'évolution de la science pure, l'activité expérimentale et les résultats techniques. La science mathématique n'a cessé, durant le XIXe siècle, d'avoir d'éminents représentants en Allemagne. Gauss était disparu en 1855 à 78 ans, après une vie de travail qui le mettait au rang des plus grands mathématiciens de tous les temps. En 1854, paraissait l'étonnant mémoire de Riemann sur les hypothèses qui sont à la base de la géométrie. Ce mémoire, admiré par Gauss, approfondit la philosophie des mathématiques. Il fut suivi de nombreux travaux plus spéciaux qui constituent ce qu'on appelle la géométrie riemannienne. Géométrie qui devait jouer un rôle important dans l'expression de la relativité einsteinienne 50 ans plus tard. Riemann mourut en 1868, à peine âgé de 40 ans. Mais déjà, continuant la ligne des génies, Weierstrass s'était imposé par ses travaux sur les séries entières. On a pu dire que Weierstrass, c'est la personnalisation même de l'analyse moderne. Weierstrass personnifie la rigueur. Le grand mathématicien français Hermite dit un jour, il est notre maître à tous. Weierstrass mourut en 1897 à 82 ans. Un autre mathématicien, Félix Klein, peut, dans le même temps, être donné comme un exemple de l'union de la rigueur et de l'intuition. Il est à cet égard un émule de Poincaré. À peine âgé de 23 ans, il rédigea le fameux programme d'Erlangen qui planifie un grand secteur des recherches mathématiques. Les travaux de Félix Klein sur la géométrie non euclidienne eurent un grand retentissement. Enfin, pour terminer cette chaîne des génies, il faut citer David Hilbert, qui vient seulement de disparaître, mais qui, à la fin du siècle dernier, commençait sa grande carrière en rédigeant, lui aussi, un programme célèbre. Son livre sur les principes fondamentaux de la géométrie donne un statut à la philosophie axiomatique. Ce livre paru en 1899. En rappelant ces grands noms, nous avons voulu seulement montrer la continuité du génie mathématique en Allemagne. Mais que de noms il faudrait citer pour donner une idée de l'extraordinaire activité de la pensée mathématique à cette époque. Du point de vue philosophique, il faudrait en particulier signaler le double besoin de construire et de fonder si manifeste à la fin du XIXe siècle. En Allemagne, des écoles entières travaillaient minutieusement pour comprendre et étendre la simple notion de nombre. Cantor formulait sa notion de transfini. Il faut lire la correspondance de Cantor et de Dedekind pour vivre les drames de la pensée abstraite. Une partie de cette correspondance a été éditée par notre inoubliable ami Jean Cavaillès, dont les thèses étudient précisément ces difficiles rapports de la pensée logique et de la pensée mathématique. Le philosophe qui ne prend pas part à ces problèmes ne soupçonne guère l'étonnante activité spirituelle des notions les plus abstraites et qui justifie ce que nous disions tout à l'heure, le drame de la pensée abstraite. Mais sans plus nous étendre sur la pensée strictement mathématique, nous allons suivre une autre ligne de science pure, affleurant dans les problèmes, se rapportant cette fois à l'expérience physique. Trois grands noms sont là encore pour nous servir à caractériser les étapes de l'évolution. Clausius, Boltzmann, Max Planck. Clausius fit paraître en 1866 son œuvre maîtresse, la théorie mécanique de la chaleur. Il en retrouvait le principe que Carnot avait énoncé en 1824. Il incorporait ce principe à une théorie générale. Il proposait cette curieuse échelle absolue des températures. On peut dire que Clausius est le fondateur de la thermodynamique moderne. On jugerait mal cette science si on la prenait pour une science particulière appliquée au seul phénomène de la chaleur. En fait, la thermodynamique doit être considérée comme une science pure, comme une science générale qui étend sa juridiction à tous les phénomènes naturels. Clausius mourut en 1888. Louis Boltzmann fit toute sa carrière de savant à Vienne. Il vécut de 1844 à 1906. À propos de Boltzmann, nous devons nous rendre compte du caractère toujours un peu factice de l'isolement d'une histoire des sciences résumée dans les œuvres des grands savants d'une nation particulière. Une étude de l'œuvre de Boltzmann devrait en effet mettre en lumière les rapports très étroits de cette œuvre avec celle du savant anglais Maxwell. Avec Maxwell et avec Boltzmann, on verrait alors l'entrée systématique du calcul des probabilités dans l'étude des phénomènes physiques. On croit assez volontiers qu'on emploie les méthodes statistiques faute de connaître des méthodes plus directes. Enfin, les recherches de Boltzmann sur la théorie cinétique des gaz montre que le calcul des probabilités a une véritable valeur d'inspection et non pas simplement une valeur de résumé. Une constante de première importance porte le nom de constante de Boltzmann. Comme le nombre d'Avogadro, elle nous résume un aspect de la réalité caché. On ferait une belle thèse de philosophie scientifique si l'on suivait l'évolution des idées de la thermodynamique de Boltzmann à Max Planck, de la constante K de Boltzmann à la constante H de Planck. Quand Max Planck entreprit ses recherches sur le rayonnement, il eut bien souvent recours au conseil de Boltzmann. Boltzmann hésitait, nous dit Planck, à affirmer le caractère réel de l'atome. Il évitait, je cite Planck, il évitait ostensiblement de compromettre par trop de hardiesse la portée de ses théories et de ses calculs. Planck s'engagea résolument dans la voie où Boltzmann hésitait. Il porta l'idée atomique du domaine de la matière au domaine du rayonnement. Et c'est ainsi que Max Planck donna au début du XXe siècle, sa fameuse formule de la répartition de l'énergie dans le spectre. Dans cette formule entrait la constante H qui spécifiait un atomisme de l'énergie. Nous abordons ici un monde nouveau, à la microphysique, à une pensée nouvelle très différente de la science classique, c'est la mécanique des quantas. Cette mécanique des quantas prend chaque jour de plus en plus d'importance. Son application à la chimie, elle seule, nous prouve que les recherches qu'on croit purement et simplement théoriques peuvent tout à coup réagir dans les domaines les plus concrets.
Gaston Bachelard, 1949.
Nous avons surtout insisté sur le développement de la science mathématique et de la physique théorique en Allemagne dans le dernier tiers du XIXe siècle. Nous voudrions compléter cette première revue des grands travaux scientifiques en examinant quelques grandes découvertes de savants allemands, ainsi que l'effort de l'organisation technique de la science. Jamais peut-être on aura un plus clair exemple de l'union du génie théorique et du génie expérimental que la curieuse personnalité scientifique que fut Heinrich Hertz. Heinrich Hertz est né à Hambourg en 1857. Il réfléchit longuement sur l'œuvre mathématique de James Clerk Maxwell. En mourant en 1879, Maxwell avait laissé une œuvre théorique considérable où il étudiait la curieuse mécanique d'un éther susceptible de propager à la fois la lumière et les actions électromagnétiques. Hertz entreprit de prouver la réalité des ondes de Maxwell. Avec des appareils extrêmement simples, il en étudia tous les aspects. Les ondes théoriques de Maxwell devinrent, à juste titre, les ondes réelles de Hertz. Son excitateur était constitué par deux barres métalliques terminées par deux sphères voisines. Entre ces sphères, Hertz faisait éclater des étincelles électriques en déchargeant une bouteille de lait. Cette décharge oscillante déterminait des ondes invisibles. Dans une pièce voisine, Hertz étudiait le champ électromagnétique ainsi créé au moyen de son résonateur, deuxième instrument de la technique de Hertz. Le résonateur de Hertz C'était une boucle de fil de cuivre comportant une petite coupure. Conlison tombait sur ce résonateur convenablement orienté. De faibles étincelles paraissaient à la coupure. Comment, avec des moyens aussi simples, peut-on faire de si curieuses découvertes? Les diverses circonstances de la propagation par ondes, réflexion, réfraction, polarisation, furent dégagées successivement. Les ondes hertziennes traversaient les murs. Il suffisait de les lancer dans des antennes, d'augmenter la puissance de leur production, de sensibiliser leur réception pour transmettre des signaux à travers l'espace. Un domaine nouveau de transmission s'ouvrait pour les hommes. Mais Hertz mourut en 1894 à 37 ans sans avoir pu assister à l'aménagement progressif des phénomènes qu'il avait découverts et qui conduisirent en un quart de siècle à la TSF et à la radio. Plus retentissante encore fut la découverte des rayons X par le physicien allemand Röntgen. Röntgen était né dans la Ruhr en 1845. Il découvrit les rayons X dans la nuit du 8 novembre 1895. C'est une découverte du hasard, une rare découverte du hasard. Un tube de Crookes couvert d'un carton noir laissait passer une radiation. Il s'aperçut qu'un écran couvert de matière fluorescente s'illuminait malgré l'intercalation de ce carton opaque. Il étudia en détail ce phénomène singulier et après quelques semaines seulement, il put présenter à la Société de physique de Berlin des plaques photographiques où l'on voyait des pièces de monnaie enfermées dans un écran, les os à travers la chair de la main. Nous ne pouvons nous rendre compte à distance de l'étonnement général, car cette découverte surprit aussi bien le monde savant que le grand public. C'était vraiment une découverte sans antécédent. Elle valut à Röntgen le premier prix Nobel de physique en 1900. Röntgen mourut en 1925. Les ondes hertziennes et les rayons X sont vraiment les dons de deux travailleurs isolés. Dans le domaine de la chimie, il semble que les travailleurs soient plus fortement intégrés aux écoles. Et c'est peut-être en Allemagne, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, que s'est instituée le plus fortement la coopération des savants et des industriels. Dès le milieu du XIXe siècle, la chimie allemande prenait un rôle de plus en plus important. Kirchhoff, Bunsen, son ami, montrèrent la fécondité de l'analyse spectrale. Ils découvrirent par cette méthode le rubidium et le césium, deux métaux qui, avec le lithium, le sodium et le potassium, constituent la famille des métaux alcalins. Liebig, au cours d'une longue vie de travail, oriente aussi la chimie allemande dans la voie des applications. Nous avons dit dans des conférences antérieures se démêler avec les chimistes français Laurent et Gérard et sa longue rivalité avec Dumas. Liebig devint célèbre par ses recherches de chimie agricole et surtout par l'extrait de viande qui porte encore son nom et qui fut l'origine d'une industrie considérable. Il mourut en 1873 après avoir formé de très nombreux disciples. Mais le rapport de l'industrie chimique à la pensée théorique s'est fait en réalité dans un domaine qu'on croyait très particulier, qu'on croyait voué aux études les plus spéciales. Il s'agit de l'arrivée de la chimie organique de la chimie du seul carbone dans les réalités de l'économie mondiale. En 1868, le chimiste allemand Hoffmann avait créé la Deutsche Chemische Gesellschaft. Hoffmann put extraire l'aniline des goudrons, qui étaient des résidus de la distillation de la houille. Alors se forme une industrie importante, une industrie grandissante, une industrie peut-être monstrueuse, des couleurs artificielles, des parfums industriels. Bientôt, l'industrie chimique allemande se place à la tête des progrès techniques. Les travaux de von Baeyer, commencés en 1885 sur la nouvelle représentation de l'atome de carbone, se développent industriellement dans les directions les plus variées. Werner, dans la dernière décade du siècle, fonde sa théorie des complexes. Il élargit la théorie de la valence et enrichit toutes les thèses de chimie organique. Dans nul domaine, à aucun temps, on a vu une industrie si théoriquement intelligente, si désireuse d'associer la science pure et ses applications. On peut dire que l'industrie chimique allemande a su prendre le rythme des nombreuses découvertes de la science pure moderne. Ce succès est d'autant plus philosophiquement remarquable qu'on pouvait penser que l'industrie chimique était, après tout, une industrie mineure, non pas une industrie lourde, mais la puissance de transformation de la science moderne est telle qu'on peut, sans littérature, dire que la science des transformations de la matière conditionne des transformations économiques décisives.
C'était Gaston Bachelard, 1884-1962. Histoire et formation de l'esprit scientifique, rediffusion. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983. Suivi de Gaston Bachelard, bis, archives. Cette semaine, les grands savants du 19e siècle. Aujourd'hui, Gaston Bachelard, 1949. L'essor scientifique du 19e siècle en Angleterre et en Allemagne. Bibliographie disponible sur franceculture.com. Isabelle Mézil, Adrien Joannet, Hervé Evano, Marc-Hubert Floriot.